RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Les échanges entre otages israéliens et prisonniers palestiniens se poursuivent.
4 soldats contre 200 prisonniers, en accord avec les termes de la trêve à Gaza, entrée en vigueur la semaine passée. En revanche, les déplacés du sud de l'enclave sont toujours bloqués et ne peuvent pour l'instant pas regagner le nord.
En République démocratique du Congo, de nouveaux combats autour de Goma.
Combats entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda, notamment sur le front nord ce matin, nous rapporte notre correspondant Iridier Baraka. Reportage à suivre également dans Goma, capitale du Nord Kivu, privé d'eau et d'électricité. Ce dimanche 26 janvier, par ailleurs, date de l'élection présidentielle en Biélorussie et date de la journée mondiale des malades de la lèpre, maladie qui touche toujours 3 millions de personnes tout autour du monde.
Faire le ménage à Gaza, c'est en ces termes que s'est exprimé ce matin Donald Trump.
Qui dit vouloir envoyer les Palestiniens de ce territoire vers l'Égypte et la Jordanie, temporairement ou à long terme, selon ses mots. Propos qui interviennent une semaine après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Hier, 4 otages israéliennes ont été libérés contre 200 prisonniers palestiniens. Israël qui a stoppé ses bombardements sur le territoire enclavé et qui ne restreint plus le passage de l'aide humanitaire. L'État hébreu qui affirme en revanche que le Hamas n'a pas libéré une civile dont le retour était prévu ce samedi et a en conséquence décidé de suspendre le retour de déplacés gazaouis réfugiés au sud de l'enclave et qui attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux dans le nord. Reportage de Ramiel Merari et Sami Boukhalifa.
Nous attendons que le passage vers le nord rouvre. Rawan et sa famille, originaires de Shujaïa à Gazaville, trépignent d'impatience. Nous allons rentrer à pied. Je rêve de ce moment depuis une semaine et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, raconte la jeune femme. Dès l'aube, ce samedi, la famille a démonté sa tente et espère la replanter plus au nord, sur les ruines de son ancienne maison détruite. Mais pour y parvenir, il faut traverser Wadi Gaza, ou le couloir de Netzarim, toujours contrôlé par l'armée israélienne. En théorie, les forces d'occupation doivent se retirer de ce point de passage dimanche. Mais ce repli est incertain, s'inquiète Hassan. Il y a environ 1 million de personnes, des déplacés, qui tentent de remonter vers le nord et qui sont bloqués ici à Khan Younes. On attend le feu vert de l'armée israélienne pour pouvoir passer. Mais ce samedi soir, l'armée a repoussé cette foule de déplacés en tirant des coups de feu. Pas de quoi décourager le jeune homme qui souhaite retrouver sa famille restée à Gazaville et dont il est séparé depuis 15 mois. La première chose que je ferai sera de serrer ma mère dans mes bras. Ensuite mon père, puis ma sœur et mon frère. Pour permettre ce retour, le Hamas doit d'abord libérer Arbel Yehoud, une otage civile israélienne, exige Israël. Elle sera relâchée la semaine prochaine, indique le Hamas. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Au Liban voisin, l'armée israélienne est toujours là, dans le sud du pays.
Alors que ce dimanche 26 janvier est en effet le 60e jour de l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah, date initialement fixée pour un retrait total des troupes israéliennes. L'armée libanaise qui accuse Israël de tergiverser et de ne pas respecter le calendrier. Et le président français Emmanuel Macron qui a lui appelé les parties prenantes à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais lors d'une conversation téléphonique avec son homologue libanais Joseph Aoun.
En République démocratique du Congo, Kinshasa rappelle ses diplomates à Kigali avec effet immédiat.
Alors que le porte-parole de l'armée congolaise a affirmé hier que le Rwanda était déterminé à s'emparer de Goma, les combats qui se poursuivent toujours autour de la capitale provinciale avec le M23 soutenu par le Rwanda. Et ce matin, des affrontements éclatés sur le front nord à Kibumba. Au moins 13 soldats étrangers dont 3 casques bleus ont été tués ces derniers jours. Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ville de plus d'un million d'habitants qui sont actuellement privés d'électricité. Les lignes à haute tension ont été coupées. Goma qui manque d'eau aussi. La population qui appelle les autorités congolaises à intervenir en urgence. Reportage à Goma, Héritier Baraka.
Au quartier Mabanga Sud, au cœur de la ville, c'est l'obscurité qui nous accueille. Ici, les habitants allument des torches et bougies dans leur maison pour s'éclairer. Maombi, une vieille vendeuse de maïs, se plaint aussi du manque d'eau.
Nous vivons sans eau et sans électricité depuis qu'ils ont coupé la connexion lors des combats. Nous achetons des piles et une torche qui nous aident à voir.
Un peu plus loin, Kambere Moïssa, un jeune de Goma, qualifie cette situation inacceptable.
Et donc Goma en ce moment, ou depuis avant-hier, est dans le noir, mais aussi l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et donc ça c'est très grave parce que ce sont les éléments essentiels pour la vie de l'homme. Nous sommes en train de vivre plus que la souffrance.
La société civile locale de la ville de Goma parle, elle, d'une situation catastrophique.
Les hôpitaux qui reçoivent les blessés ont une carence en électricité, ce qui est un problème.
Vendredi dernier, la société Virunga a annoncé dans un communiqué que les lignes qui permettaient de servir Goma et Nyiragongo en électricité avaient été endommagées lors des affrontements entre les FARDC et alliés et les M23 soutenus par le Rwanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Autre grand titre de l'actualité internationale ce dimanche 26 janvier, l'élection présidentielle en Biélorussie.
Avec 5 candidats, mais sans grand suspense, l'autocrate Alexandre Loukachenko, qui devrait rempiler pour 5 ans. Au pouvoir depuis 1994, le président biélorusse de 70 ans qui brigue un 7e mandat, Loukachenko, allié sans faille de Vladimir Poutine, qui n'a pas de véritable adversaire dans ce scrutin. Il faut dire que l'opposition a déserté le pays, notamment suite à la répression lors du dernier scrutin en 2020. Il est aujourd'hui impossible de s'exprimer dans le pays, estime Olga Gilbelova. Elle est docteure en sciences politiques à l'université Bordeaux-Montaigne.
Depuis 2020, c'est un rouleau compresseur des répressions qui pratiquement écrasé la société civile biélorusse. Donc aujourd'hui, il est pratiquement impossible de manifester dans l'espace public, en tout cas, une quelconque désapprobation à l'égard d'Alexandre Loukachenko en tant que personnalité, mais aussi à l'égard du régime politique biélorusse.
Alors justement, depuis les élections plus que contestables de 2020 qui ont été suivies par d'immenses manifestations très durement réprimées, aujourd'hui, dans quel état se trouve l'opposition à Alexandre Loukachenko? Est-ce qu'il y en a encore une? Et si oui, que peut-elle faire?
Il reste encore évidemment des opposants qui sont détenus dans le pays, en prison, mais l'essentiel des opposants a quitté le pays aujourd'hui. La seule chose qui reste à l'opposition, c'est d'essayer de maintenir l'intérêt de la communauté internationale dans l'espoir que la situation pourrait changer un jour, qu'il s'agisse de la configuration géopolitique dans la région qui est aujourd'hui plutôt favorable à l'égard Loukachenko avec le soutien très fort de la Russie. Et c'est toujours utile quand même d'avoir des opposants qui, malgré l'incapacité d'agir concrètement aujourd'hui et d'échanger le cours de choses, vont essayer d'entretenir néanmoins ce qui reste de cette opposition.
Et des propos recueillis au micro RFI de Romain Lemaresquier, Alexandre Loukachenko, qui est aussi notre Européen de la semaine, portrait à lire sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI 7h07 à Paris et Bruxelles, la Belgique, fidèle à sa tradition médiatique, celle du cordon sanitaire face à l'extrême droite.
Mais petite polémique, Julien, cette semaine dans le pays, puisque ce cordon sanitaire s'applique désormais aussi à Donald Trump. La RTBF, radio-télévision publique, a ainsi diffusé le discours d'investiture du président républicain avec 2 minutes de décalage pour pouvoir corriger un éventuel dérapage. Procédure entrant dans le cadre du cordon sanitaire médiatique, car dans le pays, les médias refusent de recevoir des personnalités jugées antidémocratiques et s'interdisent de diffuser leur discours en direct. Explication depuis Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
2 minutes de différé pour prendre le temps de l'analyse et du décryptage, s'est justifié à l'antenne la direction de la RTBF, rappelant les propos racistes d'extrême droite et xénophobes prononcés par Donald Trump dans le passé. Autant de raisons, selon la chaîne publique, d'appliquer le cordon sanitaire médiatique, une spécificité de la Belgique francophone que détaille François Debras, politologue à l'Université de Liège.
Le cordon sanitaire médiatique empêche les partis politiques non démocratique d'avoir un temps de parole libre et en direct à la radio ou à la télévision. On peut les interviewer, mais en différé, et on peut également cadrer leurs propos.
Voir un cordon médiatique généralement utilisé contre l'extrême droite s'appliquer à Donald Trump a ulcéré le chef de file de la droite francophone, le président du mouvement réformateur Georges-Louis Boucher, qui a qualifié la RTBF de ministère de la censure et de la propagande, alors que dans le même temps, d'autres médias francophones diffusaient le discours en direct. Muriel Anneau, secrétaire général du Conseil de déontologie journalistique belge, rappelle que le choix est propre à chaque média.
C'est une question de responsabilité des journalistes, mais qui n'est pas un acte de censure, puisque le droit à l'information du public reste garanti.
Face à une polémique médiatique devenue politique, la Société des journalistes de la RTBF a insisté dans un communiqué à la fois sur son indépendance éditoriale et sur le fondement légal du cordon sanitaire médiatique, encadré par plusieurs décrets gouvernementaux et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel belge. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Ce dimanche, marque aussi, Martin, la journée mondiale des malades de la lèpre.
Une maladie qui touche une personne toutes les 3 minutes sur la planète. Plus de 3 millions de personnes dans le monde sont encore touchées par ce qui est toujours vécu comme une maladie honteuse. La lèpre qui est présente sur tous les continents, notamment en Amérique du Sud, direction l'Équateur, où la maladie de Hansen, comme on l'appelle aussi, est loin d'être éradiquée, Eric Sanson.
Ils sont toujours des dizaines à Quito à vivre derrière les murs de l'hôpital dermatologique Gonzalo González. Soigné depuis des années, César Cabrera a encore l'impression d'être traité comme un pestiféré.
C'est bien qu'on soit connu, qu'on nous prenne en compte, parce que parfois, la société nous oublie. C'est comme si on n'existait pas. Parfois, des visiteurs nous disent même que la maladie est éradiquée.
Une réalité contre laquelle lutte Béatrice Miranda, rapporteure spéciale des Nations Unies. Depuis novembre 2023, cette équatorienne vivant au Mexique se bat pour rappeler que la lèpre n'est pas une vieille histoire.
La lèpre ou maladie de Hansen n'a pas été éradiquée. Il y a eu une confusion en 2000-2001 lorsque l'Organisation mondiale de la santé a parlé de son élimination. C'était effectivement vrai dans les secteurs où il n'y avait qu'un cas pour 100 000 habitants, mais cela ne voulait pas dire que la lèpre avait disparu.
De fait, l'an dernier, 200 000 nouveaux cas ont été recensés dans le monde, surtout en Inde et au Brésil. Un chiffre très sous-estimé.
Les États ne donnent pas de chiffres réalistes. Au Pérou, par exemple, il n'y a pas de suivi gouvernemental dans la région d'Iquitos. Quand le gouvernement déclare 7 cas par an, on en trouve plus de 20 dans la même région.
Béatrice Miranda se bat donc pour rappeler une simple vérité. La lèpre peut être traitée. Encore faudrait-il que les États se mobilisent. Éric Sanson, Quito, RFI.
Et puis Martin, on termine avec le retour des Stéphanois de Terre Noire et leur nouvel album Protégé.
Ah oui, deux frères qui nous chantaient Les Forces Contraires il y a 4 ans et qui sont donc de retour. Terre Noire qui était à l'Hyper Weekend Festival ce vendredi à Paris et qui présentait son nouvel opus avec les musiciens de la Maison de la Radio. Place à la version studio Protégé qu'a écouté pour nous Lisa Giroldini.
Sans ambition, au sommet d'un monde à moi. Libérer des rêves d'enfant, vivre sobrement.
Protégé est plus qu'un disque, c'est un lieu d'exploration, un abri, tout un monde raconté par Théo et Raphaël Herrerias du duo Terre Noire, un album sur le rapport à soi-même et aux autres.
On s'est dit comment on crée des connexions en fait, quels sont les niveaux d'échelle, comment on crée des cartes pour pouvoir territorialiser l'imaginaire qu'on a essayé de déployer à l'intérieur de cet album, l'imaginaire de l'intime, l'imaginaire politique, l'imaginaire du futur, l'enfance, de la maladie, de tout ce qui est dit, ça a été par l'idée de cartographier, de dessiner des territoires.
Paris. La grande ville, l'après-midi, le temps file, le temps change, soleil, pluie, les gens varient, et puis ma vie change. Au sol, il y a des vestiges.
Ici, les machines électroniques s'entremêlent aux instruments acoustiques pour créer des textures chaleureuses, sublimant des textes des plus touchants.
La vie est une farandole, on se fait déchirer la gueule, on en redemande encore, moi j'en redemande encore, dans mon corps bouillant de feu, je fais comme la vague sur l'aurore, je cours comme le lait sur le feu, je cours comme un chien sur le port. La vie est une farandole, on se fait déchirer la gueule, on en redemande.
Et nous, on en redemande encore un petit peu plus de Julien Coquerel. OM avec qui se poursuit RFI Matin.
Et vous aurez un peu plus de Martin Guez tout à l'heure à 8h, temps universel. Merci Martin. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal Afrique dans moins de 20 minutes et l'offensive autour de Goma du M23 soutenue par le Rwanda, la réponse diplomatique et militaire de la République démocratique du Congo. Les autorités faisaient un point hier, compte rendu à suivre sur place avec Patient Ligodi qui y était. Et tout de suite les sports. Avec vous Christophe Diremzian, un duel au sommet en vue en finale masculine de l'Open d'Australie de tennis. Le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, défend son titre face à son dauphin au classement mondial, l'Allemand Alexander Zverev.
Avec un enjeu résumé en deux mots, un doublé ou une première. Conforté par ses 20 succès d'affilée sur le circuit, Sinner compte conserver sa couronne aux dépens d'un Zverev encore sacré, pas encore sacré dans un tournoi majeur. Malgré deux tentatives à l'US Open 2020 et lors du dernier Roland-Garros, il a aussi un petit avantage psychologique sur Sinner en menant au bilan des confrontations, 4 victoires à 2. Les statistiques égrenées pour planter le décor. Voilà, rendez-vous maintenant sur le court à 8h30, temps universel.
La 19e journée de Ligue 1 de football, le Paris Saint-Germain a eu du mal à enchaîner après sa belle semaine européenne.
Superbe contre Manchester City, poussif contre Reims, venu faire un but partout au Parc des Princes, but d'Ousmane Dembélé, bien servi par la nouvelle recrue géorgienne Kvaratskhelia, mais réplique assez rapide de Nakamura pour des Rémois courageux face à des Parisiens en manque d'inspiration et de jus aussi, confesse le défenseur Lucas Hernandez. Déjà tourné, il est vrai, vers le match décisif de Ligue des Champions, mercredi à Stuttgart.
Ça n'a pas été un match facile. Après eux, ils ont bien joué son jeu. Après nous, il nous manque un peu plus de profondeur, essayer de prendre plus... les couloirs, mais bon, après, voilà, ça n'a pas été un match facile. Je pense que le match nul est mérité. Et voilà, maintenant, focus pour ce match de mercredi, parce que c'est vrai qu'on enchaîne tous les trois jours et c'est très important de bien récupérer pour bien enchaîner le match de mercredi qui va être un match très important pour nous.
Lucas Hernandez sur DAZN au classement, 10 points d'avance ce matin pour le PSG sur Marseille en déplacement ce soir à Nice et 13 sur Monaco, vainqueur de Rennes, 3-2, défaite en revanche de Lille, 4e à Strasbourg, 2-1, la 23e journée de Première Ligue, le leader Liverpool déroule face à Ipswich, 4-1, Arsenal reste au contact en allant gagner à Wolverhampton 1-0 et Manchester City s'est remis sur les rails après sa défaite à Paris en battant Chelsea 3-1. Et puis en Espagne, Kylian Mbappé régale avec le Real Madrid. 3 buts face à Valladolid, 3-0 au score final. Ça fait 22 buts, toutes compétitions confondues pour l'attaquant français cette saison. Les merengues confortent leur place de leader avec 4 longueurs d'avance sur leurs voisins de l'Atlético.
Et puis du basket et l'éclatante revanche des Indiana Pacers sur les San Antonio Spurs lors du second match délocalisé de la NBA à Paris.
Oui, la franchise texane victorieuse 140-110 du premier duel va embarquer pour le vol retour aux États-Unis avec un excédent de bagages à cause de la grosse valise récupérée hier soir à Bercy. Les Pacers l'ont emporté cette fois 136-98 grâce notamment à un grand Tyrese Haliburton, le meneur américain, auteur de 28 points. En revanche, ce n'était pas le Victor Wembanyama de jeudi que les spectateurs de Bercy ont pu voir. Un seul panier en seconde période, mais qu'importe finalement pour le français. Le plus important, c'est d'avoir refait un tour au pays quelques mois après la finale olympique avec les Bleus sur le même parquet.
Une bonne piqûre de rappel qui rappelle que voilà, le public français est derrière nous. Et puis je pense que mentalement, ça fait du bien de retrouver ses racines et surtout voir la famille. Ça n'a pas pris, franchement, au milieu d'une saison, ça va permettre de continuer à carburer pour le reste. Parce que c'est voilà, des gens que je ne verrai pas, qui ne peuvent pas forcément voyager, etc. Ça va grandement nous servir. Et en tant qu'équipe, je pense qu'on a grandi aussi pendant ce voyage.
Et c'est à Victor Misistrano qui l'a dit tout ça. Prochain match des Spurs sur le sol américain dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Clippers de Los Angeles. Les Pacers, eux, affronteront les Pistons de Détroit au même moment.
Merci Christophe Diremzian. Et dans ligne de défense aujourd'hui, il signe l'appartenance à une armée, vêtement du quotidien, le treillis de l'armée française, fait sa mue et sa révolution. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Fini les treillis désert bien jaune ou les treillis centre-Europe bien vert. Place désormais au BME pour bariolage multi-environnement. Un seul vêtement pour tous les environnements, aux couleurs soigneusement choisies.
C'est une alternance de grandes et petites taches brisées avec un panachage de vert, un soupçon de kaki et un fond brun, dit Terre de France, très utile ce Terre de France, insiste le commandant Stéphane, le doigt sur le nouveau treillis qu'il porte, il est responsable du programme BME au sein de la section technique de l'armée de terre.
Il y a un peu de marron, un peu de brun, on appelle ça le brun Terre de France essentiellement, qui est la couleur majoritaire, et qui est celle qui fusionne à la distance de portée des tirs.
Et il y a aussi du blanc, une première.
Absolument, d'ailleurs le blanc vous le voyez sur très très peu de treillis dans le monde, c'est un petit peu une caractéristique du BME. Le blanc il apporte en fait un contraste très fort. Le blanc c'est si vous voulez un petit peu le reflet du soleil sur une feuille dans la lisière. Les contrastes que nous donnent les couleurs donnent du relief et permettent cette adaptation à un plus grand nombre d'environnements.
Du blanc donc, mais cette fois pas de noir.
Le précédent treillis, en fait, fusionnait en noir. Et le noir dans la nature, il n'existe pas, à l'état naturel en tout cas. Et c'est la couleur qui a le plus fort signalement aux infrarouges, et même à l'œil nu, donc il a été retiré, c'était en fait une faiblesse technique pour le centre-Europe.
Franck a un treillis à la place de deux, l'objectif est donc de simplifier la logistique.
Et pour y parvenir, 6 ans d'études et de tests auront été nécessaires, souligne le commissaire en chef Nicolas, chef de la division habillement au sein des armées.
Oui, ça prend du temps parce que, par exemple, le blanc, pour avoir cet effet de dissimulation, techniquement, il est difficile à mettre au point puisque le tissu est assez technique. Il incorpore des fibres d'aramide hein, qui donnent une protection au feu. On dit que le treillis est thermostable. Ensuite, on a la phase d'approvisionnement du tissu. On a dû en commander 3,5 millions de mètres linéaires. Et une fois qu'on a approvisionné le tissu et qu'on l'a contrôlé pour vérifier qu'il présentait toutes les caractéristiques demandées par les armées, on le donne à d'autres types d'industriels qui vont nous confectionner les tenues. Ce qui a été important pour nous, c'est d'avoir le temps de constituer un stock suffisant pour qu'ensuite la manœuvre de distribution se passe de façon fluide et pilotée. Une fois que le bouton on a été enclenché, ça ne s'arrête jamais.
750 000 treillis ont été commandés. Deux industriels français et une société belge produisent le tissu qui est ensuite coupé en Bulgarie avec quelques modifications, indique le commandant Stéphane.
On a rajouté de l'ergonomie en fait au treillis F3 tel qu'il avait été conçu initialement. Tout d'abord, dans la poche de poitrine, plutôt que d'avoir du tissu en fond de poche, nous avons mis un tissu mèche, donc c'est un tissu qui est aéré. Ensuite, nous avons rajouté une poche qui se superpose à la poche cargo que nous avons sur la cuisse. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre verticalement. Lorsque nous avons un genou à terre, nous pouvons accéder à cette poche et récupérer une checklist ou un message à envoyer sans avoir besoin de se relever pour aller le récupérer.
Ce treillis BME sera en dotation pour au moins 3 décennies. Les unités en opération seront les premières équipées. Et comme le veut la tradition, Julien, le chef d'état-major des armées sera le dernier à percevoir le sien.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense. Merci beaucoup.
RFI Matin.
C'est une porte sur l'enfer qui s'est ouverte dans nos consciences et qui ne s'est jamais vraiment refermée depuis. Demain, lundi 27 janvier, marquera le 80e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz et de la libération des derniers escapés par les soldats de l'Armée Rouge, le camp de concentration et d'extermination le plus connu de l'histoire de la Shoah, où les nazis ont exterminé plus d'1 million de juifs en seulement 4 ans. 80 ans plus tard, les survivants sont de moins en moins nombreux à pouvoir témoigner. Alors comment continuer de transmettre cette mémoire? Dans notre tour du monde des correspondants ce matin, on aborde un aspect crucial de cette question, celui de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, très différencié de par le monde, un enjeu forcément important. En Israël, où chaque année le pays se fige pendant 2 minutes en mémoire des victimes. Et Michel Paul, c'est dès le plus jeune âge que les Israéliens sont exposés à cette période de l'histoire.
Sa place est centrale dans la mémoire collective du pays. L'éducation à la Shoah est sans aucun doute un pilier fondamental de l'identité nationale israélienne, un enseignement qui se caractérise par une approche multiforme et globale, de la maternelle jusqu'à l'université. Au cœur de cette pédagogie Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste à Jérusalem, mais aussi une intégration dans tous les programmes scolaires. Pratiquement tous les élèves israéliens visitent des sites commémoratifs, tels que le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne, mais les témoignages de survivants se font de plus en plus rares. Et c'est pourquoi désormais l'accent est mis sur la transmission de la mémoire de cette tragédie aux générations futures.
Michel Paul à Jérusalem pour RFI. On part à présent au Rwanda. Quelle place pour la mémoire de la Shoah dans le pays du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Plus de 800 000 personnes assassinées en une centaine de jours. Lucie Mouillot, ici, l'accent est mis notamment sur les mécanismes communs à ces deux génocides.
Dans le mémorial national de Gisozi à Kigali, 2 salles sont consacrées à la Shoah, la première sur l'histoire de l'Holocauste et la seconde sur le camp d'extermination de Treblinka. Le guide audio détaille les similarités entre les deux génocides. Comme pour les Juifs en Europe, un processus de déshumanisation se met en place au Rwanda avant 1994. Les Tutsis sont qualifiés d'insectes, d'inyenzi, de cafards en Kinyarwanda. Des qualificatifs physiques comme la longueur du nez sont utilisés pour les décrire. Un processus qui rappelle la propagande nazie contre la population juive. Dans les deux cas, des systèmes sont mis en place pour reconnaître les communautés ciblées. L'étoile jaune en Allemagne et la carte d'identité indiquant la classe Tutsi, Hutu, Hutua au Rwanda, à l'origine instaurée par les colons belges. Plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis reposent au mémorial de Gisozi, un mémorial géré par l'ONG britannique Aegis Trust, également responsable du Centre et Musée National de l'Holocauste au Royaume-Uni.
Lucie Mouillot à Kigali. Et quand la mémoire de la Shoah est convoquée par l'actualité, cap sur les Pays-Bas, marqué au mois de novembre par une explosion de violence à Amsterdam en marge d'un match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, des supporters du club israélien violemment agressés dans les rues de la ville au terme de 24 heures de montée des tensions avec notamment des chants racistes entonnés par certains d'entre eux. Plusieurs dirigeants avaient dénoncé dans la foulée un pogrom et au pays d'Anne Frank, l'enseignement de la Shoah ne suit pas de programme imposé. Il semble d'ailleurs avoir du mal à toucher les jeunes, Pierre Benazet.
Aux Pays-Bas, la persécution des Juifs pendant l'occupation nazie, c'est un objectif de l'enseignement secondaire, mais selon l'étude d'une ONG, le niveau de connaissance des élèves est plus élevé sur l'occupation que sur la Shoah, un reflet de la difficulté que les Néerlandais ont eu à faire face à leur rôle pendant cette période. 15 ans après la guerre, une commission officielle a établi que sur 140 000 Juifs recensés en 1940, moins de 30% ont survécu, alors qu'on tourne autour de 80% en France et en Italie. Sur plus plus de 100 000 juifs des Pays-Bas victimes de la Shoah. Deux ressortent particulièrement du fait de la publication, après leur mort, de leurs journaux intimes. L'enseignante Etty Hillesum, morte à Auschwitz, et bien sûr l'écolière Anne Frank, dont la maison à Amsterdam attire plus d'un million de visiteurs par an. Malgré tout, une enquête pointait il y a deux ans que plus de la moitié des Néerlandais ignoraient que la Shoah avait fait 6 millions de victimes, et un tiers des jeunes ignoraient qu'Anne Frank était morte dans un camp de concentration.
Pierre Benazet, et puis comment enseigner la Shoah dans un pays où de nombreux criminels nazis ont trouvé refuge à la fin de la guerre, dernière étape au Chili, où les témoins sont comme partout de moins en moins nombreux, Marion Bellal.
Eh bien, le Chili mise tout sur le partage oral des survivants, puisque c'est moins su, mais le pays a également accueilli entre 13 et 15 000 juifs fuyant l'Europe. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine de personnes juives au Chili qui ont vécu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, dont seulement deux qui acceptent de raconter leurs souvenirs dans les écoles de la capitale. Il s'agit de Rudy Heimann, 103 ans, et d'Anna Maria Warenberg, 94 ans. Pour la directrice du musée interactif juif de Santiago, le fait que ces deux survivants aient vécu la Shoah en tant qu'enfants ou adolescents est un avantage pour réussir à créer un lien avec les jeunes Chiliens, puisqu'ils avaient alors à peu près le même âge qu'aujourd'hui. Il semble en effet difficile d'intéresser les écoliers car la Shoah leur semble très loin, aussi bien dans le temps que dans la géographie. Pourtant, les professeurs et les institutions ne cessent de faire des ponts entre l'usage de la torture et les violations des droits humains sous la Seconde Guerre mondiale, et ce, sous la dictature de Pinochet.
Marion Bellal au Chili et les 80 ans de la libération d'Auschwitz à suivre demain dans une journée spéciale sur RFI, avec notamment l'invité d'Arnaud Pontus, l'une des dernières survivantes françaises, Ginette Colinka, aux alentours de 6h15, temps universel. Bientôt 7h30 à Paris. Et le journal dans moins de 5 minutes sur RFI. D'abord, on ouvre nos écoutilles et on apprend comme chaque dimanche avec C'est dans ta nature, notre rendez-vous de la biodiversité qui nous parle cette semaine des derniers secrets des oiseaux migrateurs révélés par plusieurs études scientifiques publiées récemment, Florent Guignard.
C'est l'un des plus beaux champs d'oiseaux en Europe, celui du merle qu'on voit gratter le sol en hiver à la recherche de quelques vers, mais un quart d'entre eux environ préfèrent s'exiler plusieurs mois vers le sud, là où il fait plus chaud et où il y a plus à manger, en Espagne ou en Afrique du Nord. Un voyage de 800 km en moyenne, ce n'est pas rien, et ça se prépare, comme l'ont mesuré des scientifiques. Un mois avant le grand départ, le rythme cardiaque diminue la nuit, la température corporelle baisse aussi, l'heure est aux économies d'énergie.
Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.
Plus de 50 milliards d'oiseaux migrent chaque année dans le monde, c'est une espèce sur cinq, et sur la longue route, dans l'air ou sur les aires de repos, on socialise, et pas qu'avec les siens. Ce sont en moyenne trois espèces différentes qui voyagent ensemble, qui se retrouvent en fonction de leur plumage, puisque la vitesse en vol dépend de la taille des ailes qui se ressemblent, s'assemblent. La cocaïne, non, les oiseaux n'en consomment pas pour tenir le coup sur ces longues distances, mais la coca les menace indirectement. C'est l'un des effets pervers de la lutte anti-drogue en Amérique latine. Les narcotrafiquants s'enfoncent toujours plus dans les forêts tropicales et sont responsables au Guatemala et au Nicaragua de près d'un tiers de la déforestation, précisément là où viennent passer l'hiver 20% des oiseaux migrateurs nord-américains.
Le caca, c'est délicieux.
Non, le caca, c'est caca, mais c'est surtout plein d'énergie, et des scientifiques australiens ont montré que le grand pétrel, avant la traversée de l'océan austral, mangeait des excréments de phoque. Pour s'envoler le ventre plein chez tous les oiseaux migrateurs coprophages, il s'agirait aussi d'enrichir son microbiote intestinal pour que le système digestif s'adapte sans problème aux nouveaux types de nourriture rencontrés tout au long de la migration. Chez les oiseaux, la tourista, on connaît pas. On passe à la question.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête.
Ça déprime les animaux ?
Eh oui, on vient encore de s'en rendre compte. Dans un aquarium au Japon, en rénovation, donc sans public, sans visiteurs, un poisson lune, un gros poisson qui pèse en moyenne une tonne, tournait un peu trop en rond, se frottant sans explication contre la paroi, refusant de se nourrir des méduses dont pourtant il raffole, bref, les signes de la dépression. Les soigneurs ont alors découpé dans du carton des silhouettes humaines et les ont habillées pour simuler une présence. Et notre poisson lune a aussitôt repris goût à la vie. Il ne demandait pas la lune, juste une présence humaine. Lui, qui à l'état sauvage, n'en croise jamais dans les océans.
Stromae, c'est dans ta nature avec Florent Guignard que vous retrouvez tous les dimanches et à tout moment sur notre site RFI.fr. Et pour le journal, eh bien c'est dans 30 secondes. A tout de suite sur RFI.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Au Bénin, le culte vaudoune honore la puissance des éléments, l'eau, la terre, l'air, la foudre, et on invoque les ancêtres pour améliorer sa vie. Mais beaucoup de fidèles naviguent entre le vaudoune et les autres religions, notamment le christianisme. Comment réagit-on de part et d'autre? Reportage au Bénin dans cette émission.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI.